Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes samedi 19 Esfand, 1402 du calendrier iranien, 9 mars 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'Iran se réserve le droit légitime de répondre aux menaces israéliennes, a déclaré l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies. L'Iran rejette le rapport de la mission d'établissement des faits de l'Organisation des Nations Unies. Le peuple palestinien est confronté à une hostilité américano-israélienne sans précédent, a annoncé le Hamas. Des bases et des raffineries israéliennes ont été frappées par la résistance irakienne. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné le rapport publié par la mission d'établissement des faits de l'Organisation des Nations Unies, affirmant que le rapport était basé sur des informations erronées et manquait de base juridique. Dans un communiqué publié samedi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fermement condamné le mécanisme de cette mission, affirmant que les allégations répétées et non fondées du rapport sont fondées sur des informations incorrectes et biaisées et manquent de toute crédibilité juridique. Dénonçant les tentatives d'un certain nombre de gouvernements occidentaux de fomenter le projet de l'iranophobie et de diffamer l'Iran en formant un spectacle ridicule des droits de l'homme, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que le rapport englobe un ensemble organisé de distorsions et de falsifications des faits qui ont délibérément inversé les réalités. La République islamique d'Iran dénonce le rapport qui a été élaboré à partir d'un complot ourdi par le régime sioniste, les États-Unis et un certain nombre de pays occidentaux comme un exemple flagrant d'abus de concepts et de valeurs des droits de l'homme dans le but de réaliser des objectifs politiques à courte vue et estime que cela n'a aucune validité juridique ni aucun effet, a-t-il réaffirmé. La branche militaire du mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, affirme que le peuple palestinien est confronté à une hostilité américano-israélienne sans précédent, alors que la bande de Gaza est toujours sous les bombardements et un blocus total. Le porte-parole des brigades Qassam a décrit Israël comme un régime d'occupation dépourvu de toute valeur humanitaire, ajoutant que des massacres de type nazi sont en cours à Gaza. Abu Obeida a déploré le fait que le droit international reste incapable d'empêcher Israël de commettre des crimes contre les Palestiniens et l'humanité. Selon lui, les règles de la communauté internationale sont vétustes et inefficaces, ajoutant que ces règles sont au service des puissances hégémoniques. Il a également évoqué un éventuel cessez-le-feu, affirmant que la priorité pour conclure un accord d'échange de prisonniers était de mettre fin complètement à l'agression israélienne. Obeida a également évoqué l'opération anti-israélienne de la résistance lancée par les Palestiniens début octobre. Il a souligné que l'opération Tempête d'Al-Aqsa était une réponse naturelle à des décennies d'inimitié et d'atrocité du régime d'occupation sioniste contre les Palestiniens. Plus de 5 mois après le début de la guerre génocidaire israélienne dans la bande de Gaza, la campagne de bombardement du régime sioniste continue de faire des victimes innocentes dans les territoires palestiniens. Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 82 Palestiniens ont été tués et 122 autres blessés dans les attaques israéliennes depuis vendredi. Un certain nombre de victimes restent sous les décombres des bâtiments bombardés ou sont abandonnés sans surveillance dans les rues alors que les forces israéliennes empêchent les secours d'urgence de les atteindre. Faisant fi de l'arrêt provisoire de la Cour internationale de justice, Israël poursuit ses attaques contre la bande de Gaza où au moins 30 960 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, et 72 525 autres blessés depuis le 7 octobre, selon les autorités palestiniennes. La guerre israélienne contre la bande de Gaza a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de la bande assiégée dans un contexte de grave pénurie de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon l'Organisation des Nations Unies. La résistance islamique en Irak a lancé de nouvelles attaques contre des cibles israéliennes dans les territoires occupés en soutien au peuple palestinien de Gaza. Le groupe de coordination irakien des groupes antiterroristes a déclaré vendredi 8 mars, dans un communiqué publié sur sa chaîne Telegram, avoir mené une attaque de drone contre une caserne militaire à l'aéroport de Rosh Pina, dans la partie nord des territoires occupés. Il a ajouté que l'opération avait été menée en réponse au massacre par Israël de civils palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza. Les drones de la résistance ont également ciblé une importante base d'information située dans le nord du Golan occupé, l'axe de la résistance mettant ainsi l'accent sur la poursuite des frappes contre les positions ennemies. Et enfin, le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé que les forces armées du pays avaient frappé un navire de guerre et des destroyers américains en pleine mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a fait part dans un communiqué de deux nouvelles opérations de la résistance yéménite contre un navire de guerre et des destroyers américains dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Les deux opérations ont été menées avec succès et la marine et l'unité de drones yéménites ont réussi à atteindre les cibles qu'ils avaient choisies. Le porte-parole des forces armées de la résistance a également félicité son peuple pour une marche d'un million de personnes qui s'est déroulé vendredi 8 mars en soutien au peuple palestinien. L'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a mis en garde contre l'aventurisme militaire du régime israélien dans la région, soulignant que Téhéran se réservait le droit inhérent de répondre aux menaces et aux attaques émanant du régime israélien. Dans une lettre adressée jeudi 7 mars au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, et au président tournant du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'envoyé iranien auprès de l'Organisation des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a rejeté les allégations et les menaces proférées par le régime sioniste contre la République islamique d'Iran. Tout en mettant fortement en garde contre tout aventurisme militaire ou toute activité malveillante du régime israélien dans la région, la République islamique d'Iran se réserve son droit légitime et inhérent, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à toute menace ou attaque menée par le régime israélien contre sa sécurité, ses intérêts nationaux et son peuple, a-t-il écrit dans une note. Sa lettre faisait suite à une lettre antérieure du ministère des Affaires étrangères du régime occupant sioniste Israël Katz à l'Organisation des Nations Unies, prétendant que la République islamique d'Iran avait intensifié les livraisons d'armes au mouvement de résistance libanais, le Hezbollah. Les accusations formulées dans la lettre sont totalement infondées et catégoriquement rejetées. Cette lettre représente une nouvelle tentative cynique faite par le régime israélien de détourner l'attention de la communauté internationale des atrocités flagrantes et des actes de génocide commis par le régime d'apartheid d'Israël contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Il s'agit également d'une tentative trompeuse de légitimer l'agression israélienne contre le Liban et ses violations continues du droit international, de la Charte des Nations Unies, ainsi que des résolutions 1559 en 2004 et 1701 en 2006 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, en lançant des allégations non fondées contre la République islamique d'Iran, a déclaré l'ambassadeur iranien auprès de l'Organisation des Nations Unies, Amir Saïd Iravani. La République islamique d'Iran réaffirme également le droit inhérent de la République arabe syrienne et du Liban, en vertu du droit international, de prendre toutes les mesures nécessaires en réponse à toute menace ou attaque et acte d'agression du régime israélien contre leur souveraineté, leur indépendance et leur intégrité territoriale, a souligné le diplomate iranien. La recrudescence des actes d'agression d'Israël contre la Syrie et le Liban fait suite aux attaques du régime de Tel Aviv contre les Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée. Le régime israélien a mené une guerre dévastatrice contre Gaza le 7 octobre après que le Hamas a lancé l'opération Tempête d'Al-Aqsa dans les territoires occupés en représailles aux crimes incessants du régime de Tel Aviv contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, à Gaza et à Qods. Depuis le début de l'agression, le régime de Tel Aviv a tué au moins 30 800 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé 72 298 autres. Israël cible également et de manière fréquente les positions militaires en Syrie, en particulier celle du Hezbollah libanais, qui a joué un rôle clé dans la lutte syrienne contre les terroristes soutenus par les pays étrangers. Depuis lors, l'armée israélienne a également mené des attaques contre le territoire libanais, provoquant des représailles du mouvement de résistance libanais Hezbollah en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le mouvement de résistance libanais s'est engagé à poursuivre ses opérations de représailles aussi longtemps que le régime de Tel Aviv poursuivra ses attaques contre la bande côtière de Gaza.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, dans le débat d'aujourd'hui, il sera question de la politique de deux poids deux mesures qu'exercent les États-Unis contre les Palestiniens. En effet, ils avaient déjà donc fourni des armes et de l'argent pour lancer une guerre génocidaire par Israël contre les Palestiniens. Également, ils avaient opposé donc leur veto concernant une résolution pour un cessez-le-feu. Et voilà que maintenant, ils évoquent un cessez-le-feu et demandent à Hamas de respecter un cessez-le-feu immédiat. Donc, on voit très bien cette politique de deux poids deux mesures que mènent les États-Unis concernant, bien sûr, les Palestiniens. Alors, nous allons développer ces questions à l'aide des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Les États-Unis multiplient les pressions sur le mouvement de résistance palestinien Hamas en vue de l'obtention d'un cessez-le-feu temporaire. Il s'agit là d'une nouvelle tentative de Washington de soutenir le régime après l'avoir déjà fait en lui fournissant des armes et de l'argent pour lancer sa guerre génocidaire dans la bande de Gaza. C'est actuellement entre les mains du Hamas, a déclaré le président américain aux journalistes du Maryland, en faisant référence à l'approche du Ramadan qui devrait commencer au début de la semaine prochaine. Biden a avancé que le régime de Tel Aviv avait présenté une offre rationnelle sur l'établissement d'un cessez-le-feu. Il a également parlé des captifs israéliens détenus à Gaza, mais a omis de mentionner les milliers de Palestiniens qui croupissent dans les prisons du régime pendant des mois et des années sans procès ni inculpation. Le président américain a fait ses remarques alors que les médiateurs égyptiens et qataris tentent de trouver des moyens de parvenir à un accord avant le mois sacré du Ramadan. Les États-Unis ont déjà opposé leur veto à trois résolutions de l'ONU sur le cessez-le-feu à Gaza et ont fourni à Tel Aviv un soutien militaire et financier pour la guerre. Parallèlement, le Hamas a souligné que la sécurité des Palestiniens ne sera pas garantie tant qu'un cessez-le-feu permanent ne sera pas établi. Israël serait opposé au retrait de ses forces et au retour des réfugiés palestiniens. En décembre, les combats ont été interrompus et l'aide humanitaire a été autorisée à entrer à Gaza dans le cadre d'un cessez-le-feu d'une semaine. Il y a également eu un échange de 240 Palestiniens avec 105 captifs israéliens. Le Hamas a répété à maintes reprises que tout accord d'échange de prisonniers était hors de question à moins que les conditions d'un cessez-le-feu ne soient remplies.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat nos deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, expert de questions internationales, qui est avec nous depuis la France. M. Cornu, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à toutes.
Un plaisir de vous recevoir. Un grand bonjour à Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Bonjour, M. Rami.
Bonjour.
Un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez eu une longue lutte contre le régime sioniste, Ahmad Rami. Il faut également citer M. Bernard Cornu, que depuis récemment, bien sûr, participant à toutes les manifestations, se rendant à Londres, par exemple, pour participer pendant des manifestations contre les Israéliens qui mènent donc cette guerre génocidaire dans la bande de Gaza. Il faut les féliciter et les saluer, bien sûr. Ma première question va s'adresser à M. Bernard Cornu, donc concernant cette politique de deux poids, deux mesures qu'exercent les États-Unis dans la bande de Gaza. D'une part, il s'oppose donc un veto concernant la résolution donc pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Et de l'autre part, exerce des pressions sur le Hamas pour commencer un cessez-le-feu. Comment expliquer cette politique de deux poids, deux mesures, M. Bernard Cornu?
C'est une vieille politique américaine de défendre à tout prix l'État israélien, quoi qu'il fasse, de lui assurer une totale impunité pour ses faits, et quand il reproche certaines choses, y compris du temps du président Obama, ou même une résolution des Nations Unies condamnant les colonies qui a été votée, il n'y a pas eu d'abstention ou de veto américain, il n'y a pas de sanctions. Les seules sanctions, des arrêts sur armes, peuvent faire l'État israélien, préoccupant que on l'a vu dans d'autres pays, ce qui lui déplaît. Donc voilà, c'est l'exorbitant pouvoir des 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui lui permet d'assurer cette impunité totale à Israël face aux exactions. Et on le voit même dans l'exécution des décisions, des ordonnances de la Cour internationale de justice et bientôt sans doute de la CPI, l'État israélien qui est condamné, à qui est reproché des choses, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'exécutif, il n'y a pas de police internationale encore pour mettre à l'œuvre l'exécution des sentences juridiques.
Absolument. Je m'adresse à Ahmad Rami, qui est bien sûr Radio Islam en Suède. Vous avez beaucoup à dire, Ahmad Rami, sur la politique de deux poids, deux mesures des États-Unis dans la bande de Gaza et contre les crimes commis par le régime israélien dans la bande de Gaza, n'est-ce pas?
Bien sûr. Et ces deux poids, deux mesures, en fait, ce n'est pas des... En réalité, il s'agit surtout du fait que c'est l'entité sioniste Israël qui décide de la politique et des décisions du gouvernement américain. C'est-à-dire, en fait, le gouvernement américain ne prend pas des décisions américaines, mais prend des décisions israéliennes, parce que c'est le lobby israélien qui gouverne les États-Unis. C'est-à-dire, en fait, les États-Unis occupent toutes les institutions et les moyens de choisir les dirigeants et la politique américaine. Et bien sûr, la propagande sioniste israélienne veut présenter ça comme une décisions américaines, mais en réalité, ce sont des décisions sionistes parce que Israël n'occupe pas seulement la Palestine, comme j'ai toujours dit, les États-Unis, l'entité sioniste, l'occupant sioniste américain, occupe aussi les États-Unis et l'Occident en général, et même les gouvernants arabes qui décident aujourd'hui. On le voit, leurs décisions ne sont pas seulement ce sont des décisions, mais c'est une capitulation, c'est une trahison qu'ils exercent, les dirigeants arabes. Et donc, c'est totalement clair et net que c'est le lobby israélien, de l'occupation israélienne, qui occupe les États-Unis, qui occupe l'Occident, qui occupe les institutions internationales, puisque les grandes puissances occupées par l'entité sioniste, ces grandes puissances occupent les États-Unis. Le droit de veto. Pourquoi ce droit de veto? À qui est donné? Pourquoi on a donné ce droit de veto? On l'a donné au plus fort qui décide. C'est-à-dire selon la loi de la jungle, la loi du plus fort, la loi de la force. Donc il faut pas seulement aller dans la version de la propagande sioniste et dire que ce sont des décisions purement américaines. Non, il faut poser le problème. C'est posé même dans le monde arabe, c'est posé aux États-Unis, dans tous les pays.
Absolument.
Ce sont les lobbies sionistes qui occupent ces pays. Moi, j'habite en Suède. Eh bien, tous les médias sont occupés par le lobby sioniste, par Israël. Donc, ce n'est pas le gouvernement suédois. Moi, j'habite en Suède. Ce n'est pas le gouvernement suédois, en réalité, qui décide. C'est le lobby sioniste qui occupe les médias en Suède, qui occupe les institutions politiques en Suède. Donc, mais la propagande sioniste veut présenter ça comme des décisions suédoises, des décisions des États-Unis, des décisions de la France. Mais en réalité, il faut dire la vérité telle qu'elle est. C'est le lobby sioniste qui exerce dans tous les pays, qui exerce la politique dans tous les pays et qui domine et qui occupe politiquement les pays, les grands pays, alors qu'il occupe militairement la Palestine. La Palestine, politiquement, est moins occupée car le peuple palestinien est totalement conscient de la situation, que c'est Israël qui occupe la Palestine, non pas les Palestiniens.
Absolument.
Et la même chose, oui, alors donc il faut dire la vérité, il faut dire telle qu'elle est, ce qui occupe, parce qu'il y a la résistance en France et la résistance aux États-Unis, dans tous les pays, en Amérique latine, la résistance contre cette occupation qui occupe tous les pays. Donc il faut d'abord libérer, on ne peut pas en réalité libérer la Palestine avant de libérer d'abord les États-Unis. C'est le peuple américain qui va libérer les États-Unis.
Absolument. Bernard Cornu, votre réaction, je vous prie. Donc des propos très intéressants, donc évoqués par Ahmad Rami. Est-ce que vous pensez que cette occupation est totale des Israéliens, d'une part aux États-Unis et des institutions et les médias partout dans le monde, avec ce lobby très fort donc, que joue Israël sur le monde entier, certains pays en tout cas. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ça?
Netanyahou l'avait dit lui-même dans un entretien avec des colons. Le microphone était encore maintenu, mais donc il y a eu un enregistrement où il disait, en gros, j'ai dans mon ordinateur les propos exacts, mais en gros il disait, nous faisons ce que nous voulons avec le gouvernement des États-Unis. Donc lui-même avait été enregistré pour dire cela, alors qu'il ne savait pas qu'il était entendu, qu'il était enregistré. Et d'autre part, ce lien, donc il faut l'expliquer, c'est le lien de l'argent, c'est que l'État israélien dépense énormément d'argent pour financer des élections de certains élus républicains, notamment ceux du Sud républicains, parce que ce sont les régions pétrolières du Texas, et qui est un État très riche et avec beaucoup d'élus, sénateurs ou membres des représentants, membres la Chambre des représentants. Et en fait, de là se rappelle ce pouvoir de l'argent, puisque le Sud pétrolier, c'est lui qui a voulu, depuis une centaine d'années, toujours contrôler le Moyen-Orient à cause du pétrole et avoir un point d'appui. Donc c'est pour ça, par cette région, cet intérêt de l'argent, cet intérêt économique, impérialiste, qu'il souhaite soutenir ce point d'appui des Américains, de l'Amérique au Moyen-Orient pour contrôler l'ensemble de la région à cause du pétrole et du gaz. Et ça me rappelle aussi pourquoi le Likoud et ce parti extrémiste garde le pouvoir. C'est qu'en fait, comme ils donnent l'autorisation pour des logements illégaux, récemment encore 3500 logements ont été agréés, cela fait des centaines de millions de dollars pour les entreprises. Et c'est évident qu'ils payent des bakchiches aux députés du Likoud ou aux personnels du Likoud qui ont donné ces autorisations. Donc ce mécanisme de l'argent est le mécanisme fondamental qui maintient Israël depuis longtemps. Et c'est ceci sur lequel il faut enquêter et c'est ceci qu'il faut dénoncer. Ce sont ces soutiens complètement illégaux dans ce pays, l'Amérique, dans lequel il n'y a pas de démocratie réelle parce que les candidats à la présidence de la République des États-Unis dépensent plus d'un demi-milliard et parfois même plus d'un milliard de dollars chacun. Donc c'est encore le pouvoir de l'argent. C'est l'argent qui mène la barque des élections aux États-Unis. Ce n'est pas une réelle démocratie.
Absolument.
Et c'est la même chose en Israël.
Absolument. Merci, Monsieur Bernard Cornu. Vous évoquez bien sûr la question de l'argent. Ce sont les États-Unis donc qui fournissent des armes et de l'argent au régime sioniste pour lancer donc une guerre génocidaire considérable, tuant plus de 30 000 personnes, des femmes et des enfants, donc dans ce pays. Ahmad Rami, tout à l'heure, vous avez évoqué que vous avez dit une phrase très intéressante. Vous avez dit que la Palestine était moins occupée que les États-Unis par le lobby sioniste. Est-ce que vous pouvez développer cette question? Et vous aviez également dit que c'est au peuple américain de libérer donc les États-Unis des mains d'un occupant qui est le régime israélien.
Oui, car disons que le peuple palestinien est conscient qu'il est occupé. Donc c'est pour ça qu'il y a une résistance. Alors que, par comparaison, le peuple américain n'est pas conscient parce que l'idéologie, c'est... Cette idéologie, c'est une image de la réalité. C'est-à-dire, en fait, la réalité n'est pas l'image de la réalité, la propagande. Et c'est pour cela que, en fait, ce que maintenant les médias, ce sont eux qui font l'image de la réalité. C'est-à-dire, le monde entier voit maintenant la question palestinienne selon l'image que les médias sionistes qui sont dominés et possédés par l'argent de l'opé sioniste, donc c'est cette image qui est donnée par l'entité sioniste, la propagande, c'est ce que les gens voient, parce que le citoyen suédois, américain ou français, la majorité des citoyens ne peuvent pas suivre l'histoire, ils ne savent pas de quoi il s'agit, la Palestine c'est quoi, l'occupation c'est quoi. Donc ce qu'ils voient, eux, c'est ce qui leur est servi par les médias sionistes, c'est-à-dire la propagande israélienne. Et c'est pour cela qu'il faut, disons, nous, c'est notre devoir de présenter la réalité, l'image de la réalité. Dans ce domaine, en réalité, le peuple palestinien est plus libre, puisqu'il est plus conscient que le peuple américain, en fait, qui est totalement esclavagisé, sous l'esclavage de la dominance, des finances, de l'argent sioniste et de l'occupation, parce que les sionistes ne sont pas seulement de l'argent, mais ils sont très organisés, très actifs. Ce sont des acteurs. Alors que la majorité des non-sionistes, ils ne sont pas actifs. Et ils ne sont pas des chiffres, ils sont des zéros. Politiquement, ils n'existent pas puisqu'ils ne sont pas actifs, ils ne sont pas organisés. Alors que les sionistes, ils sont très actifs, c'est comme toutes les sectes d'ailleurs, très organisés et très actifs. Donc en fait, les non-sionistes, ce sont des zéros et les sionistes, ce sont des chiffres. Alors, 0 plus 0 plus 0, c'est 0, alors que les sionistes, 1 plus 1 plus 2, les chiffres, ça compte. Donc, ils constituent aujourd'hui, en réalité, la majorité dans le monde et localement, ils constituent la majorité puisqu'ils sont actifs. En Suède, par exemple, même s'il n'y a que 60 000 sionistes, mais ils sont actifs et très organisés. Alors que nous, les non-sionistes, ne sont pas actifs et ne sont pas organisés. Et en plus, ils occupent les médias qui donnent à l'opinion publique, aux citoyens suédois, l'image, pas la réalité, l'image d'une réalité qu'eux-mêmes, ils en font l'image. Donc, en réalité, le peuple suédois est trempé par la propagande sioniste. Absolument. Et ce n'est pas un hasard que tous les médias, en Suède ou en France ou ailleurs, sont possédés, organisés et dominés par le lobby sioniste, que ce soit les médias privés ou les médias publics. Tous. J'ai agi moi-même en Suède maintenant pendant, disons, 50 ans. Dans la lutte de la résistance, parce que moi, à mon avis, il faut exercer cette résistance, il faut faire son devoir et son là où on est faire ce qu'on peut faire. Alors moi, je fais ce que je peux faire et tout le monde doit faire en tête ce qu'il peut faire, c'est déjà beaucoup. Et les Palestiniens, maintenant, font ce qu'ils peuvent faire. Et le peuple, les Américains, ils sont aussi dans la résistance américaine.
Absolument.
Contre la domination sioniste. Ils font aussi leur travail, et même en Suède ici, en France, il y a une résistance un peu partout.
Tout à fait. Bernard Cornu, que pensez-vous des propos de M. Ahmad Rami, je vous prie?
Oui, c'est vrai que les sionistes organisés sont très puissants dans les médias, en Occident. Il y a aussi partout une résistance, et je voudrais signaler aussi une résistance parmi les universitaires et les chercheurs aux États-Unis et même en Israël, dont beaucoup aussi sont juifs, ont émis une nouvelle pétition en décembre qui demande un cessez-le-feu immédiat et durable avant un échange des prisonniers. Et surtout, ils condamnent l'occupation très ancienne et les expulsions qui datent déjà de 1948 et 16 ans de blocus sur Gaza comme une cause de tout ce qui s'est passé le 7 octobre, comme une cause de la résistance civile ou armée palestinienne. Et donc, il faut encourager ces milieux qui commencent à s'organiser parmi disons, les intellectuels, les universitaires et d'autres professions d'ailleurs, aux États-Unis et même en Israël, où ils sont effectivement très minoritaires, ils ont très peu d'influence politique. Mais il faut justement parler de cette opposition très ferme à cette domination sioniste aux États-Unis et ailleurs pour pouvoir ne plus appliquer ce deux poids et deux mesures. Je voudrais enfin rappeler, comme je l'ai fait souvent, une phrase de Chirac, qui était président de parti à l'Assemblée nationale juste à la veille de la guerre du Golfe en 91, le 16 janvier. Il a dit « Il y a de par le monde deux poids et deux mesures, le règlement de la crise du Golfe, sous-entendu par une résolution des Nations Unies sous chapitre 7 avec recours à la force, doit permettre de créer un précédent opposable à toutes les atteintes portées aux libertés des peuples et des hommes. Et c'est là la justification essentielle et primordiale de notre intervention dans cette région. » C'était Jacques Chirac qui le disait, et sous-entendu lui qui connaissait bien le problème palestinien, qui s'était rendu très souvent dans plusieurs villes palestiniennes. Il disait qu'il fallait régler le problème palestinien par une résolution chapitre 7, c'est-à-dire avec recours à la force, sous le contrôle d'un état-major des Nations Unies. Et que sinon, il y avait deux poids et deux mesures, puisqu'il constatait qu'on avait obtenu l'évacuation du Koweït par l'Irak en 6 semaines, on en avait exigé, par une attaque concertée, et qu'on a vu plus tard, enfin Chirac ne l'a peut-être pas tout vu, mais on a appliqué ceci à la Libye aussi de façon abusive, et on l'a appliqué aussi à Daesh, selon résolution chapitre 7 des Nations Unies, qui sont le seul moyen d'appliquer une décision des Nations Unies. Toutes les autres résolutions ne sont pas applicables par la force, donc en fait elles sont juste du verbiage, une affirmation de principe, mais sans mesure effective pour les faire appliquer.
Eh bien, Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue depuis Vaucluse, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci à Ahmad Rami. Je rappelle qu'il est directeur de Radio Islam en Suède et expert des questions internationales. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La BCE excessivement prudente avant de baisser les taux. Malgré une révision de ses prévisions d'inflation à la baisse, la Banque centrale européenne, BCE, préfère attendre encore. Nous n'avons pas discuté d'une baisse de taux lors de cette réunion, a confié Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, à l'issue d'un conseil des gouverneurs à Francfort, jeudi dernier. Malgré la révision à la baisse de ses prévisions d'inflation et de croissance, la BCE campe sur sa position de prudence et refuse toujours de déclarer accomplie sa mission de juguler la flambée des prix qui avait dépassé les 10% fin 2022. Les économistes de la BCE estiment pourtant que l'inflation atteindra 2,3% en moyenne dans la zone euro cette année, 2% l'an prochain et 1,9% en 2026, soit dans les clous de son objectif d'environ 2% à moyen terme. Dès le mois de février, le chiffre avait reculé à 2,6%. Nous sommes dans un processus désinflationniste. Nous faisons des progrès, reconnaît Christine Lagarde. Nous sommes plus confiants, mais pas suffisamment confiants, a-t-elle expliqué pour justifier cet attentisme. Manière d'indiquer sans le faire un calendrier, elle a ajouté que les grands argentiers disposeront d'un peu plus d'informations en avril, mais beaucoup plus en juin, les deux prochaines réunions de politique monétaire de la BCE. Les marchés ont conclu qu'il faudra attendre le mois de juin pour constater une première baisse des taux directeurs, qui reste donc à leur plus haut niveau historique, 4% pour le taux de dépôt. Les hausses de salaires sous surveillance. La principale inquiétude porte sur l'évolution des salaires, dont les augmentations pour rattraper le pouvoir d'achat perdu pourraient alimenter un rebond de l'inflation si les entreprises répercutaient la hausse de leurs coûts de main-d'œuvre dans leurs prix. Cela ne semble pas le cas pour l'instant. Et ce rattrapage des rémunérations commence à s'atténuer, constate la BCE. Un indicateur important sur les augmentations collectives attendues en mai devrait lui permettre de le vérifier avant de passer à l'action sur les taux. En 2025 et 2026, l'activité devrait rebondir à 1,5% et 1,6% respectivement. Reste à ne pas tuer la croissance par cette politique monétaire restrictive qui se conjugue à la mise en place d'économies budgétaires par les gouvernements. Or, les économistes de la BCE ont une nouvelle fois revu leur prévision de croissance du PIB à la baisse à 0,6% pour la zone euro cette année, contre 0,8% attendu en décembre. En 2025 et 2026, l'activité devrait rebondir à 1,5% et 1,6% respectivement. Si elle se défend de sacrifier l'activité économique sur l'autel de la lutte contre l'inflation, Christine Lagarde reconnaît l'existence d'un risque que la croissance puisse être plus faible si les effets de la politique monétaire se révèlent plus forts que prévu. À savoir que, en maintenant sous tension les coûts d'emprunt des entreprises, des États comme des ménages, la BCE déprime la consommation et l'investissement. Résultat, l'économie européenne stagne depuis près d'un an et demi.
de nombreux économistes commencent à juger que la BCE pêche par excès de prudence et obère toute perspective de rebond de l'activité. Christine Lagarde tente de ne pas faire de vagues en maintenant une posture inchangée. Cependant, dans un contexte de baisse de l'inflation et de faible croissance, la pression en faveur d'une baisse des taux devient de plus en plus forte. Après avoir été accusée d'avoir trop tardé à réagir à la poussée inflationniste, la BCE pourrait commettre, par excès de zèle, l'erreur inverse face au ralentissement de l'économie. Aux États-Unis, en revanche, la croissance, si elle ralentit, reste encore nettement plus dynamique que dans la zone euro. Tandis que l'administration Biden, sans se soucier de l'envolée vertigineuse de la dette américaine, continue d'injecter des milliards de dollars en soutien à l'économie. Ce qui pousse la Réserve fédérale à ne pas se précipiter non plus pour baisser les taux, jugeant que sa position restrictive ne pèse pas sur l'activité. Si les marchés se livrent à des paris sur qui, de la Fed ou de la BCE, gagnera en premier, Christine Lagarde se défend de toute dépendance par rapport à ce que feront les Américains. Si c'était le cas, l'audace serait de baisser les taux d'abord en Europe, qui en aurait le plus besoin. Nous pensons que la BCE sera la première banque centrale à réduire ses taux en juin, car elle disposera des données et des arguments nécessaires pour normaliser sa politique monétaire et qu'elle sera probablement suivie par la Fed et la Banque d'Angleterre, disent les analystes. De l'inflation pour encore 4 ans au Canada. Un nombre croissant d'entreprises estime qu'il faudra au moins 4 ans avant que l'inflation revienne à la cible de 2%, indique la dernière enquête trimestrielle de la Banque du Canada. Ces attentes d'inflation élevées compliqueront la tâche de la Banque du Canada qui estime que la cible d'inflation pourrait être atteinte beaucoup plus tôt et qui envisage de commencer à réduire son taux directeur. Les consommateurs sont aussi sceptiques quant au retour de l'inflation à la cible de 2%, selon l'enquête séparée publiée en même temps par la Banque du Canada. Ils estiment que les loyers et les dépenses publiques élevées vont soutenir une forte inflation. Le taux d'inflation du mois de décembre sera publié mardi par Statistique Canada. Il était de 3,1% en novembre. Mais la plupart des économistes s'attendent à ce qu'il ait remonté en décembre. Les prix élevés de l'énergie, des aliments et des logements empêcheront l'inflation de baisser plus rapidement, selon le sondage mené auprès de 700 à 800 chefs d'entreprise canadiennes à la fin de 2023. Les entreprises sont moins nombreuses à vouloir augmenter leurs prix plus qu'elles ont l'habitude de le faire parce que la demande faiblit. Les entreprises qui ont l'intention de continuer à augmenter leurs prix plus souvent et de façon plus importante citent les salaires, l'augmentation passée du coût de leurs intrants et la nécessité de rétablir leurs marges bénéficiaires. Du côté positif, un nombre croissant d'entreprises estime qu'il est plus facile d'embaucher et que les pressions salariales diminuent. L'augmentation de salaire qu'elles s'attendent à donner au cours des 12 prochains mois diminue, mais demeure élevée, à plus de 4%, alors que la moyenne historique tourne autour de 3%. Sans surprise, les entreprises disent souffrir d'un resserrement des conditions de crédit. Ce sont les entreprises du secteur du commerce de détail, de l'hébergement, de la restauration et du divertissement qui sont les plus touchées. Les prêteurs sont en effet prudents parce qu'ils prévoient que les dépenses de consommation vont continuer à baisser. Le sondage de la Banque du Canada auprès des consommateurs confirme qu'un nombre croissant d'entre eux prévoit de freiner leurs dépenses parce que leur situation financière s'est détériorée. Comme les entreprises, les consommateurs constatent que le marché du travail n'est plus aussi favorable et que le taux de chômage augmente. Mais ils s'attendent tout de même à recevoir des salaires plus élevés. Du côté des entreprises, la principale préoccupation est maintenant la détérioration de l'économie, note l'économiste Claire Fan de la Banque Royale, et non plus les pénuries de main-d'œuvre et les problèmes d'approvisionnement. Le niveau actuel de l'inflation est toutefois encore trop élevé pour justifier une baisse des taux d'intérêt au cours des prochains mois, selon Claire Fan de la Banque Royale.